Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de votre émission quotidienne « Un votre avis sur VO Afrique ». Nathalie Barge pour vous accompagner dans cette discussion avec nos auditrices, nos auditeurs que nous allons joindre en ligne. Comment protéger les écoles contre l'insécurité ? Enlèvement d'élèves au Nigeria, école occupée par des groupes armés en Centrafrique, établissement scolaire attaqué dans l'est de la RDC et le nord du Burkina Faso subit le même sort. Entre autres lieux, que faire pour protéger les élèves? Vous pouvez appeler en direct au 001 202 205 26 33 001 202 205 26 33. Vous pouvez nous appeler. On peut vous rappeler si vous nous donnez votre numéro de téléphone. Donc, on a eu quelques commentaires sur notre Facebook, le Facebook de VOA Afrique, notamment le commentaire de Kevin. Kevin qui est en République démocratique du Congo et que nous avons justement en ligne. Et lui, il pense que c'est la responsabilité notamment des casques bleus de la MONUSCO. Kevin, bonsoir.
Bonsoir VOA, bonsoir à tous les auditeurs.
Comment allez-vous?
Je suis bien portant.
Est-ce que vous êtes dans l'est de la RDC?
Je suis dans la capitale.
D'accord. Alors, on vous écoute par rapport à justement cette situation. Je ne sais pas si aujourd'hui, est-ce que aujourd'hui, vous savez si dans l'est de la RDC, il y a encore des écoles qui sont attaquées, par exemple?
À présent, la situation est un peu calme, là.
D'accord. Alors, donc, vous pensez que c'est de la responsabilité des casques bleus qui devraient, en fait, protéger donc ces enfants dans les écoles. On vous écoute pour développer votre point.
Tout à fait. Tout à fait. J'ai toujours vu que les casques bleus sont très bien formés. Avec nos forces de l'ordre, je pense que cette responsabilité ne convient pas. En fait, nos policiers actuels, ils aiment bien travailler là où il y a des mondes. Des fois, je peux dire que là où il y a la paix, nos policiers ne me conviennent pas à travailler là-bas. Pourquoi je dis cela? J'ai toujours vu avec nos forces de l'ordre, même s'ils travaillent, après un moment, c'est eux-mêmes là qui créent des troubles. Voyez un peu ça. Avec les casques bleus, ils sont très bien formés, ils peuvent bien maîtriser la situation.
Mais alors, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'ils sont extrêmement nombreux et que, bon, visiblement, ils ne peuvent pas être partout? Et bon, il y a aussi une polémique par rapport à, justement, leur efficacité. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que vous pensez, par exemple, que le gouvernement devrait s'arranger, par exemple, avec les Nations Unies pour, effectivement, que chaque école soit protégée par des casques bleus dans les régions troubles?
Évidemment, le gouvernement doit vraiment s'en charger de ça. J'ai toujours vu que les casques bleus, vraiment, j'ai toujours aimé beaucoup les casques bleus parce qu'ils sont très compétents. Je ne fais pas confiance avec nos forces de l'ordre de la RDC.
Merci beaucoup.
Je ne suis pas sûr qu'elles peuvent.
Un grand merci Kevin donc qui est en RDC. Kevin, rappelez-nous quand vous voulez, c'était un plaisir de vous entendre. Je crois qu'on a Ben Benoît Kabey qui est également en RDC. Alors ce n'est pas Benoît, c'est Deyebé Apollus qui lui est au Tchad. Bonsoir, comment ça va?
Ça va. Vous allez bien?
Ça va très bien. Alors vous pensez qu'il faut placer les APS dans chaque école, comme le cas de votre pays, vous dites, et pourquoi pas des militaires comme au Nigeria? Parlez-nous de votre pays déjà.
Oui, j'ai dit qu'il fallait placer les militaires ou bien les APS, c'est-à-dire les agents de la prévention de la sécurité devant les écoles, parce que ce sont ces gens-là qui servent à assurer la sécurité des enfants. On les forme. Il y a des entreprises qui sont là en charge de ces écoles. Nous avons les entreprises comme Deboni, Portion, Garantie, toutes qui sont là chargées à former les paramilitaires qu'il faut appeler. Et que ces gens viennent des actions très encourageantes envers les écoles et les entreprises, même si les bénéficiaires des personnes. Et pour le cas au Nigeria, en Centrafrique, en ABC, et bien dans d'autres pays, c'est pas ça, ça demande la présence des militaires, parce que eux, ils sont formés avec les armes, on les donne des armes, on les donne des gaz, lacrymogènes et autres. Alors que les APS, on les forme pour la défense seulement.
Des APS, est-ce que ce sont des agents de sécurité ou des policiers?
C'est des agents de sécurité qu'on les forme comme des paramilitaires.
D'accord. Et donc ça, c'est spécifique à votre pays, vous dites, et il y en a... Et c'est dans quelles écoles? Est-ce que c'est toutes les écoles? Est-ce que c'est dans des zones en particulier, dans des régions en particulier?
Non, précisément ici à N'Djamena, au cœur de la capitale, la plupart sont dans des écoles privées. Mmh. Les écoles privées, ou bien les écoles publiques reconnues qui engorgent beaucoup des élèves, ont les agents du bureau engagent et ils prennent un APS avec les entreprises en charge. Mmh. Et c'est ce dernier qui sert la sécurité. En rentrant, on fouille chaque élève, il y a des appareils. On fouille les élèves là avec chaque élève qui entre. Et parfois, dans certaines écoles, on les demande de faire mettre les onges, se mettre en onges et puis pour permettre de fouiller vite pour que la sécurité passe vite parce que l'heure de la rentrée est prête peut-être.
Donc c'est une sécurité, c'est vraiment une sécurité très poussée en fait dans les écoles, donc N'Djamena.
Oui, c'est ça. La plupart quand je suis devant les écoles privées, la plupart sont dans les écoles privées, madame.
Ah, c'est pas... Oui. Bien sûr, qui peuvent se payer ces agents de sécurité, bien entendu. Mais ce n'est pas dit pour les écoles publiques.
Non, il n'y a pas beaucoup... Y a pas, je n'ai pas vu même encore dans les écoles publiques, mais certaines écoles fonctionnent avec. Mais la plupart sont des écoles privées.
Merci beaucoup, Apollus. Rappelez-nous, revenez nous voir, participez à ce calling show. On a un autre auditeur en ligne. On a Hassan Omar à Djibouti. Bonsoir. On vous écoute.
Bonsoir aux auditeurs. Oui.
On vous écoute, Hassan.
Merci. Moi, je crois que ce qui est très important, c'est qu'en fait, souvent avec le terrorisme qui se développe de plus en plus en Afrique et qui a de différentes formes aussi, il faut le signaler aussi. Donc, et cette transformation d'idéologie qui pousse de plus en plus à des jeunes de faire des choses qui ne sont même pas religieuses pour protéger et faire une protection, surtout rapprocher, mais pourquoi pas former à la sécurité les enseignants, c'est très important. Un enseignant peut aussi défendre sa classe. S'il est formé, ou on prend la première nécessité dans la sécurité. Donc une formation, une sensibilisation serait très importante pour les enseignants, pour l'administration dans les écoles, mais aussi pour les parents, eux aussi doivent protéger. Et l'État doit avoir des politiques et des feuilles de route qui sont importantes dans ce sens-là.
Mais tiens, Hassan, là, vous rejoignez un petit peu à travers ce que vous dites, certains avis, notamment aux États-Unis, par rapport à, vous savez, cette polémique qu'il y a, que même le président Donald Trump aurait proposé que des enseignants soient armés. Est-ce que vous iriez jusque-là? Vous parlez de formation des enseignants pour protéger les enfants. Est-ce que vous pensez que vous iriez jusqu'à les armer?
Non, armer, c'est d'être dans une prison, d'être dans un système pénitentiaire. Non, il ne faut pas donner des armes. Et déjà, ça suffit la craie ou la règle pour défendre, si on peut dire, l'élève. Mais ce qui est très important, c'est d'abord secourir, par exemple, si c'est possible. Donc, premier secours, on peut faire premier secours pour un élève qui peut être... a été blessé ou a eu de...
Prendre des cours de secourisme, oui. Ça devrait être obligatoire, en fait. Les cours de secourisme,
voilà,
par exemple.
Voilà. Ouais. Voilà. Et une sensibilisation, comment faire lorsqu'il y a un attaque terroriste, est-ce qu'il faut prendre sous les tables, est-ce qu'il faut partir de cette direction, est-ce qu'il faut lever la main devant la force de sécurité. Des choses qui sont assez anodines pour certains, mais... qui peut être sauver des vies, voilà ce qu'il faut apprendre. Mais armer, avoir un visé dans une classe, ça peut entraîner des problèmes psychologiques à l'élève et faire penser toujours qu'il y a des menaces.
Merci beaucoup, Hassan Omar, pour votre point de vue sur cette question. On a d'autres auditeurs en ligne que je vais prendre dans une petite minute, juste le temps de lire quelques commentaires, notamment celui de Ben Benoît Cabeille. Il dit « Désolé de nos autorités, surtout congolaises, chez nous en RDC, l'insécurité est provoquée par une classe politique pour leur fin. C'est pourquoi nous, militants de la Loucha, nous demandons au moins l'intervention de la communauté internationale, la SADC, l'Union africaine, enfin de trouver une solution sur l'insécurité qui bat des records dans des écoles. » Il est donc en RDC à Goma. Il y a Jean Kitenge qui a écrit « L'insécurité dans les écoles, que faire ?» À mon avis, dit-il, les dirigeants africains devraient plus cultiver le sens de responsabilité envers leurs dirigés. Par exemple, en RDC, quand un ministre traite la population d'un quartier à Kinshasa comme des inciviques, comment voulez-vous qu'il ait le souci de la protéger, dit-il. Bref, nos dirigeants doivent savoir qu'ils ne sont pas élus ou nommés pour s'enrichir et envoyer leurs enfants en Europe, mais pour créer l'équité entre tous, c'est Jean Kitenge. Il y a Alphonse Mbweki qui lui a écrit « Si Boko Haram n'est pas neutralisé sur le territoire nigérian et dans les autres pays du Sahel, il continuera ses enlèvements dans les écoles. Il faut procéder, dit-il, à l'élimination de ces groupes au plan national et les écoles seront en sécurité. » C'est Alphonse Mbweki, un autre auditeur en ligne. Allô ?
Oui, allô ?
Christian Aïba, oui. En Côte d'Ivoire. Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Comment allez-vous?
Oh, je vais très bien.
Alors,
je
vous...
Oui? Oui, je suis précisément en Côte d'Ivoire, à Sikensi, dans une banlieue d'Abidjan.
Formidable, on vous écoute.
Ok. Bon, moi, je crois que aujourd'hui les gouvernants investissent beaucoup dans l'éducation, mais ils n'investissent pas là où il faut. Parce que ces gens-là, ces terroristes, en venant enlever les enfants et en allant, ils forment ces enfants-là et ces enfants deviennent des terroristes. C'est-à-dire qu'eux, ils ont compris. Parce qu'ils savent que former un enfant qui a un esprit encore dans la somnolence, demain, il deviendra plus dangereux. Et nos gouvernants aussi doivent s'impliquer dans la formation des enfants. C'est-à-dire quoi ? Dans la formation religieuse, dans la formation culturelle des enfants.
Mmh.
En faisant cela, les enfants grandissent avec un esprit de valeur. Et ces enfants-là vont savoir que l'être humain est important. Il faut préserver des vies.
Mmh.
Donc... Ce phénomène ne pourra pas s'arrêter parce que des gens utilisent ça pour leur commerce. Ils prennent souvent la religion, ils mettent au devant certaines valeurs, mais eux-mêmes, ils sont des êtres qui ne respectent pas cette religion-là, qui ne pratiquent pas cette religion. Combien de personnes doit-on former devant, pour les mettre devant des écoles, sachant que nous, en Afrique, l'État a déjà un faible budget. Donc, on ne pourra pas protéger toutes les écoles. Si on peut le faire dans les grandes villes, les gens passeront toujours dans les villages. Et le problème aussi, c'est le problème du chômage des jeunes. Les jeunes n'ont pas de travail. Pour un concours, par exemple, il faut prendre 500, 400 personnes. Vous voyez, 81 000 postulants. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'emploi. Et les jeunes sont obligés d'aller là où on peut leur donner à manger. Ne serait-ce que les embobiner avec des discours. Alors si les dirigeants forment les enfants à la base, si les dirigeants apprennent les jeunes à s'investir dans l'éducation des enfants ou bien eux-mêmes leur propre éducation avec des valeurs religieuses, des valeurs culturelles, je pense que ce problème-là, on ne pourra pas résoudre ce problème, mais on pourra quand même avoir une petite marge. Parce que le plus important, c'est de savoir que l'être humain est sacré. Et les valeurs traditionnelles africaines nous enseignent la sacralité de l'homme. Mais avant, il n'y avait pas ces phénomènes-là. Mais ces phénomènes sont venus avec la technologie, tout et tout. Aujourd'hui, on peut protéger des enfants, mais n'oubliez pas que ces enfants-là vont sur Internet et là-bas encore, on peut manipuler les esprits. Donc physiquement, ils sont protégés, mais les gens vont passer sur le plan moral, sur le plan psychologique, de loin, pour pouvoir entraîner ces enfants-là dans ce phénomène de terrorisme.
Merci beaucoup, Christian, pour votre point de vue. Christian, si vous m'entendez encore, revenez participer à l'émission. Vous êtes le bienvenu. Et n'oubliez pas de demander aux dames de votre entourage de participer également à notre émission. À votre avis, quasiment pas de femmes qui nous appellent, de dames. Il en faudrait. Mesdames, si vous m'entendez, appelez-nous, participez à ce calling show. Est-ce que l'on a, il y a Damas Mousseau en ligne? Je ne pense pas. Je vais prendre un autre auditeur dans quelques temps. Mais je voudrais lire le propos de Yadamas Mousseau, qui a écrit sur notre Facebook. Il est de la RDC. La police nationale qui a cette tâche de protéger les personnes et leurs biens n'existe pas dans ce pays, dit-il. L'armée nationale qui défend chaque nation n'existe pas, dit-il. Or, nous trouvons des miliciens, des rebelles en train de manger avec des militaires. Ils sont ensemble parfois. Il faut que les autorités aient d'abord la bonne volonté de se mettre à la place de ces enfants, qu'elles les protègent. Tous ceux qui logent dans des écoles, qui enlèvent les élèves, sont les pions des autorités, pense-t-il, car nos forces de l'ordre sont plus fortes et elles ne font rien. Il est donc en République démocratique du Congo. Il y a aussi le commentaire de Jeshurun Abdoulaye. Il dit « Comme il s'agit d'éviter qu'ils soient portés atteinte à l'intégrité des élèves et leurs encadreurs, deux types de mesures peuvent être arrêtées. » Et nous l'avons justement en ligne. Il va nous parler de ses suggestions. Bonsoir Abdoulaye.
Bonsoir madame.
On vous écoute.
Oui, comme vous avez commencé à dire, étant donné que l'État doit garantir la sécurité des élèves et des enseignants. Et j'estime que si l'État n'a pas cette capacité en raison de l'effectif des forces de l'ordre, je pense que là où il y a des risques élevés de terrorisme et de conflits, je pense qu'il vaut mieux délocaliser ces écoles-là. Mm-hmm. Et par la suite, quand les situations vont se calmer, on va y revenir. Ça a été le cas chez nous en Côte d'Ivoire. À l'Ouest, il y a eu un conflit au niveau foncier, un conflit au niveau foncier entre les autochtones et les allochtones. L'État a été obligé, en pleine année scolaire, de faire déplacer les élèves, ceux qui le voulaient. Ils sont allés s'inscrire dans d'autres établissements du pays. Parce que ce conflit-là était quasi permanent avec des temps de baisse.
Mmh. Et maintenant, est-ce que ça va mieux? Est-ce que l'on a pu, est-ce que ces élèves, parce que c'est pas évident, on imagine, déplacer les élèves, c'est aussi déplacer toutes les familles, en fait.
Oh non, en règle générale, comme les parents sont en général paysans, et ils demeurent dans leur exploitation, par contre, les élèves rejoignent les régions où leurs parents résident dans le reste du pays.
Et vous pensez que dans les cas les plus graves, donc il faut effectivement que les forces de l'ordre soient là pour sécuriser les écoles, selon votre commentaire?
Oui, madame, parce que le problème ici, c'est chez nous en Afrique, c'est le sous-équipement des forces de l'ordre et le manque d'effectifs. De sorte que quand il y a une crise quelque part, et qu'on doit déployer suffisamment de forces pour assurer la sécurité, vous voyez que les autres zones du pays sont laissées à l'abandon et les gens peuvent frapper à tout moment.
Merci beaucoup Abdoulaye pour votre témoignage. On a le témoignage de Louis Moutanga, je ne sais pas si nous l'avons au téléphone. Il dit: si les groupes armés profitent de la défaillance sécuritaire de nos États pour attaquer et occuper les établissements scolaires, c'est une faiblesse à couvrir par nos responsables. Toutefois, comme l'insécurité persiste, la population doit continuer à collaborer avec les services de renseignement pour prévenir les enlèvements, car les assaillants vivent toujours souvent dans la population. C'est Louis Moutanga. Osana Teadou, il dit: je pense que la responsabilité incombe à nos gouvernants, et nous l'avons justement en ligne au Tchad. Bonsoir Rosana.
Bonsoir madame et bonsoir à vos millions d'auditeurs.
On vous écoute.
Alors moi je pense que quand vous l'avez soulevé, le sujet de la responsabilité revient à nos autorités, à qui sont les garants de la protection de la population. Donc je propose que tu allies et ils doivent implanter les forces de l'ordre devant chaque établissement pour vraiment protéger la vie de ces innocents, ces gosses qui ont besoin d'une sécurité. Sinon, à chaque fois, les bandits de grand chemin que je qualifie de terroristes tue les gens lâchement, vachement, je pense que ce n'est pas normal. Donc les autorités doivent s'arranger à garantir la sécurité, à vraiment à protéger les enfants qui sont les futurs cadres de demain. Sinon, je pense que à part ça, je ne trouve pas une autre solution fiable qui peut être qui peut vraiment être un remède pour ces problèmes. La population aussi doit s'investir. Ainsi, si les gens peuvent s'organiser à le niveau des gens qui n'ont pas de préoccupations, ils peuvent aussi s'organiser et puis venir demander à l'aide des autorités qui vont peut-être venir en secours avec des matériels de sécurité. Et ça, c'est aussi une solution qui peut contribuer efficacement à éradiquer vraiment ces fléaux qui aujourd'hui perdurent et font perdre chaque fois les enfants qui sont là pour étudier et puis espérer avoir une vie meilleure demain, quoi.
Merci beaucoup, Ozana, mais un grand merci pour votre participation. On a trois autres auditeurs. Je voudrais lire un commentaire, celui d'Ousmane Badamassi. Il dit renforcer la sécurité par l'implication de l'armée et la gendarmerie selon les cas. Les parents doivent aussi jouer un rôle important dans ce dispositif, par exemple la sensibilisation. Si certains pays dépensent énormément pour protéger leur président, pourquoi pas nos enfants, dit-il. On a Wilfried en ligne, Wilfried qui est au Bénin. Wilfried, on vous écoute, bonsoir.
Hey, bonsoir madame.
Allez-y.
Voilà. Hey, il faut remarquer aujourd'hui que en Afrique, les dirigeants ne s'intéressent pas à la sécurité en fait. L'objectif ce sont les discours politiques. Ils ne pensent pas aux actes concrets. Ils ne font que penser à leur propre gain. Voilà, ils sont seulement à leur gloire. Et ils doivent prendre toute responsabilité afin de renforcer la sécurité dans les écoles.
Grand merci. Oui, Wilfried, je suis désolée de vous laisser. On a encore deux autres auditeurs et je voudrais bien lire le commentaire de Thierry. Thierry, qui est au Burundi, il dit enseigner un enfant dans un endroit où règne la sécurité, c'est comme semer des grains dans le désert. En Afrique, où aujourd'hui les guerres entre religieux et autres font la une de l'actualité, les dirigeants doivent s'efforcer de protéger les écoles. Il faut déployer un grand nombre d'agents de sécurité sur les écoles, mais ceux-ci doivent porter d'autres tenues en dehors de la tenue militaire pour ne pas montrer aux élèves que le pays est en situation de guerre ou en situation de danger, pense-t-il. Ceux-ci seront aussi chargés de se renseigner sur les risques d'enlèvement, mais aussi les parents, dit-il, et les travailleurs des écoles ont un grand rôle à jouer. Thierry à Bujumbura. On a Yao Marcelin qui est à Abidjan. Bonsoir Yao, rapidement. Marcelin, est-ce que vous m'entendez? Non. Alors c'est Thierry qui est en ligne. Est-ce que c'est Thierry?
Oui, bonsoir madame.
Bonsoir Thierry, allez-y rapidement, on vous écoute.
Ok, je dis que les Africains doivent comprendre que quand l'enfant a un esprit perturbé, vraiment, il ne peut pas bien suivre les enseignements. Il faut d'abord qu'il y ait une sécurité. Ben, je veux dire quoi? D'abord, l'État doit savoir que la sécurité est son obligation. Il faut d'abord que l'État déploie un grand nombre d'agents de sécurité pour sécuriser les écoles. Et ceux-ci doivent tout d'abord savoir que quand l'enfant voit un agent de sécurité qui porte l'uniforme de la police, par exemple, l'enfant doit se mettre en tête que le pays est en danger. Il y a un ennemi devant lui. Donc, il ne peut pas bien suivre les enseignements. Et ici, il faut aussi souligner le rôle des parents. Les parents doivent savoir que pour éviter les enlèvements, ils doivent se présenter. Précise, je vais dire, lorsque les enfants sont prêts à rentrer, le parent, la maman doit être à la porte d'eau.
Merci beaucoup, un grand merci. On arrive au terme de l'émission. Je voudrais lire très rapidement un tout petit commentaire, celui de Moïse. Aucun investissement n'est de trop pour préparer l'élite intellectuelle de demain. Il faut augmenter le budget alloué à l'école pour mieux la sécuriser. Très bonne soirée à tous, au revoir.